Je voudrais d'abord dire que comme j'étais là ce matin, j'ai effectivement eu la chance d'assister à une conversation, à un débat qui était tout à fait intéressant, stimulant au plan intellectuel. Et je crois que peut-être la période nous autorise aussi justement à essayer de dire des choses qui sont quelquefois décapantes. Alors, la question, effectivement, comment peut-on faire de l'art populaire sans être populiste? Ensuite, c'est devenu d'ailleurs, peut-on faire de la culture populaire sans être populiste? Problème de définition, effectivement, que je ne vais pas plus résoudre que les autres. Qu'est-ce que distinction entre art et culture? Ce n'est pas la même chose, évidemment. Qu'est-ce que le populaire? Qu'est-ce qui est populaire? Qu'est-ce que le peuple? Qu'est-ce que le public? Les publics? Qu'est-ce que la population? Qu'est-ce que le territoire? Autant de questions qui sont évidemment préalables ou qui conditionnent notre conversation. Je dis ça parce que je lisais il y a quelques jours dans un journal que je ne citerai pas, un journal du soir réputé pour son sérieux, il parlait du cinéma, c'était un article sur le cinéma, et l'auteur de l'article disait qu'il y a une distinction entre le cinéma populaire et le cinéma d'auteur, n'est-ce pas? Dont il découle que le cinéma d'auteur est ou ne serait pas populaire, tandis que le cinéma populaire n'est pas ou ne serait pas un cinéma d'auteur. Et déjà, on entre dans la difficulté et dans la complexité du sujet. Le public, d'ailleurs, c'est celui qui écoute ou qui regarde, et pourtant ce n'est pas l'audimat non plus, qui est celui de la référence audiovisuelle. Alors, autrefois quand tout était simple, autrefois quand tout était simple, il y avait la culture cultivée, la culture savante, et puis on disait aussi qu'il y avait des cultures populaires, n'est-ce pas? Les arts et traditions populaires, la culture du monde ouvrier, la culture rurale, les identités régionales. La notion d'identité culturelle, d'ailleurs, est à ce moment-là assez facilement accolée à celle de culture populaire. Et puis aussi, autrefois, il faut bien que j'en parle, il n'a pas été cité, mais je vais le citer, parce que comme ça, la boucle est bouclée, puisqu'on a parlé ce matin de Bourdieu, de Vitesse, de Wittgenstein, de Mao Tse-tung. Il y a évidemment, autrefois, il y avait l'aventure villarienne. Le théâtre populaire. Alors le théâtre populaire, selon Villard, vous le savez, c'est que le théâtre était un art, mais qu'il était aussi populaire parce qu'il avait le souci de... Les responsables de ce théâtre avaient le souci de leur mission sociale. Conquérir le public, rechercher le public. Il y avait pour ça un outil de surcroît qui était l'éducation populaire, n'est-ce pas? L'éducation populaire, c'est-à-dire un tissu d'associations, de relais, de citoyens, bref, un élément constitutif de citoyenneté qui faisait la médiation entre le public ou les publics et l'art, qu'est le théâtre. Puis ensuite est arrivée la culture de masse, c'est-à-dire la culture des industries culturelles et de l'audiovisuel. Et cette culture-là, elle se veut la culture commune, culture entre guillemets, mais elle se veut la culture commune, elle se veut la culture connue de tous. Chaque citoyen, paraît-il, regarde la télévision plus de 2 heures par jour. Donc c'est la culture connue de tous, culture entre guillemets, mais culture connue de tous. À défaut d'être la culture vraiment commune. D'ailleurs une anecdote. Il y a quelques années, j'étais président d'un établissement public qui s'occupait des monuments historiques de l'État. Sa responsabilité à cet établissement, c'était d'animer ces monuments, d'assurer la visite du public. Et un jour, je visitais un des monuments publics nationaux qui se trouvait à quelques kilomètres d'un autre monument historique, lui, privé. Puisque les monuments, quand ils reçoivent des visiteurs, ils sont sur un marché qui est celui du tourisme culturel. On appelle ça comme ça, le tourisme culturel. J'ai discuté avec le président, avec le responsable du propriétaire d'ailleurs du monument privé. Pourquoi? Parce que dans le monument public, nous accueillions des expositions, soit des expositions patrimoniales à caractère scientifique avéré, soit des expositions d'art contemporain, pour favoriser la rencontre entre le patrimoine et la création. Et le propriétaire du monument privé, lui, il faisait en été, dans la cour du château, des tournois de chevalerie. Des tournois de chevalerie. Et il me disait, voyez-vous, ce qui nous différencie, monsieur le président, c'est que moi, je fais de la culture populaire, tandis que vous, vous faites de la culture élitiste. Et au fond, c'était quoi la bonne réponse, n'est-ce pas? Moi, je faisais, enfin, je faisais, je contribuais à montrer, ce sont les artistes qui créent, ou les scientifiques, de l'art ou de la culture tout court. Parce que les populaires ou pas populaires, c'est de l'art ou de la culture tout court. Et lui, le propriétaire du monument privé, il faisait quoi? Il faisait du divertissement, à mon avis. J'ai dit divertissement. J'ai pas dit le populisme d'ailleurs. Parce que c'est pas tout à fait la même chose non plus. C'est là que c'est compliqué. Parce qu'il y a du divertissement de qualité et du divertissement qui n'est pas de qualité. Parce qu'il peut y avoir de la culture avec de l'humour, ou avec du plaisir. Alors, le populisme d'ailleurs, je me souviens, vous vous en souvenez tous, de cette phrase de M. Lelay, le bientôt ex-président de TF1, qui disait notre rôle, c'est de faire en sorte qu'il y ait des cerveaux disponibles pour Coca-Cola, nos annonceurs. Alors ça, effectivement, c'est une définition, à mon sens, possible du populisme. C'est une définition possible du populisme. Mais je pense que on ne peut pas non plus assimiler l'audiovisuel avec le populisme. Je veux dire par là que la télévision n'est pas en soi constitutive de populisme. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. La question, c'est que la culture qui est aujourd'hui diffusée sur l'audiovisuel, la culture dite de masse, cette culture-là est une culture effectivement soumise dans la plupart des cas aux impératifs de rentabilité marchande, c'est-à-dire cette déferlante du populisme audiovisuel auquel on assiste, à laquelle on assiste, et qui n'est pas besoin de développer outre mesure d'ailleurs. Mais il y a d'autres usages possibles de la télévision, et c'est d'ailleurs toute la question qui est posée. Comment faire pour qu'il y ait un autre usage de cette télévision. Mais je dis ça parce que, puisqu'on est dans les citations intellectuelles, à propos des industries culturelles, il y avait autrefois l'école de Francfort, Adorno, Horkheimer, qui disait que les industries culturelles étaient finalement l'instrument de manipulation et d'endormissement, si je résume très succinctement la position de l'école de Francfort, de façon très sommaire, hein, c'était ça, au fond, les industries culturelles comme outils de la classe dominante. Et puis il y a eu, après, il y a eu les cultural studies américaines, dont je ne me réclame pas, mais qui sont intéressantes parce qu'au fond, elles relativisent. Elles montrent que la culture qui est sur l'audiovisuel est une culture hétérogène, contradictoire, avec des champs de conflits de forces diverses et complexes, et que il y a à la fois la culture qui est diffusée à des fins, effectivement, commercial, et puis il y a d'une certaine façon aussi des formes qui sont produites issues de l'usage audiovisuel et qui ne sont pas réductibles nécessairement à cette culture imposée et à visée commerciale. Bref, complexité de la situation. Alors, quand on parle de la culture populaire dont il s'agit, moi je comprends la chose de la façon suivante. Peut-on faire de la culture populaire sans être populiste? C'est-à-dire, comment faire pour que la fonction de recherche et d'expérimentation dans le domaine culturel soit promue, développée par des institutions culturelles, par des responsables artistiques, par des créateurs eux-mêmes, sans que pour autant on rompe avec le public. Comment faire pour développer ce public tout en ayant en souci une production artistique de qualité? Alors il y a une réponse que j'ai entendue, que nous avons tous entendue souvent, que j'ai réentendue malheureusement à l'occasion de la campagne électorale qui vient de se passer, qui consiste à dire, si on veut faire de la culture populaire, il faut en quelque sorte adapter cette culture au peuple. C'est-à-dire qu'il faudrait faire des concessions, il faudrait modifier la nature des œuvres pour les rendre accessibles au public. Et moi, je pense qu'il ne faut absolument pas faire ça, n'est-ce pas ? Que c'est là que commence le populisme, d'une certaine façon, c'est-à-dire que s'il y a des œuvres qui ne sont pas d'emblée accessibles, il n'y a pas pour autant à les modifier pour qu'elles deviennent accessibles. Ce n'est pas ça, la bonne démarche. Que faut-il faire ? On voit bien que, il me semble, que la question qui est posée, alors, retour ou pas à Villard, je ne sais pas d'ailleurs, c'est tout faire pour que l'art reste dans son intégrité, dans son exigence, dans sa qualité intrinsèque, mais qu'il multiplie les occasions de rencontres, de connaissances, de sensibilisation, de confrontation entre cet art et ce public. Et c'est là l'enjeu, c'est là la complexité, et c'est là peut-être effectivement que de plus en plus les difficultés naissent. Retour d'ailleurs à la campagne électorale, au fond, mon propos est peut-être un peu décousu, mais ce n'est pas grave. Nous avons tous constaté qu'il y avait globalement ce silence des politiques à propos de la culture pendant la campagne électorale.
Hein. Silence assourdissant.
Silence assourdissant, absolument. D'autant plus assourdissant que il y avait une demande des artistes qui s'est exprimée très fortement. On vous demande de parler de culture, vous, les candidats. On vous demande de vous exprimer, parler de la culture. Et la réponse des politiques a été globalement l'absence, le silence. Hein. Comment faut-il interpréter ça? Il y a une interprétation possible qui consiste à dire les politiques sont devenus insoucieux de culture. Il y a une inculture des politiques. D'ailleurs, on ne voit plus les politiques au théâtre, on ne les voit plus à la danse, on ne les voit plus au concert. Et cette inculture des politiques est l'explication de cette situation. Il y a une autre réponse qui est quelquefois donnée, qui consiste à dire il y a cette coupure entre la culture et le monde. Et cette coupure, c'est la faute des professionnels. C'est par celle des artistes. Parce que si la liberté des créateurs a été admise, si l'autonomie de programmation des responsables a été admise, en contrepartie, ceci chemin faisant, au fil des ans, ont perdu le souci de leur rôle civique. Et comme ils ont perdu cette préoccupation de l'inscription civique de leur action, il n'y a plus de demande de la politique qui relaye la société, peut-être. Des demandes de quoi? Une demande de la présence de l'art dans la cité. Qui est dans la salle? Il y a des spectateurs, oui, quelquefois les salles sont pleines, et même plus souvent qu'on le dit. Mais peut-être que ces spectateurs appartiennent au cercle éclairé et qu'il n'y a plus cette interpellation, cette confrontation entre la société et l'art, et que c'est l'explication de cette non-réponse du politique. Quelquefois, je ne sais pas, je n'ai pas moi-même la réponse, parce qu'au fond, j'ai plus de questions que de réponses aussi. Hein. Mais il est vrai qu'il y avait cette césure est là. Cette césure est là, ce silence est en effet assourdissant, et il nous pose question. Comment faire pour qu'il en soit autrement, hein.